toutes et à tous. Merci de votre fidélité, vous en êtes. Voilà, nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous, consacrée aujourd'hui à la Ligue des droits de l'homme. C'est Michel et moi-même qui vont parler des droits de l'homme et en particulier du problème des migrants parce qu'on en parle beaucoup, mais la plupart du temps, c'est tellement dramatique qu'on préfère ignorer les réalités. Et là, je vais quand même vous livrer un article qui vient de Géo, qui s'intitule « La vie avant tout ». C'est vrai que ça fait dresser les cheveux sur la tête tellement que c'est poignant cet article-là. Hein, je vais commencer, et puis après on pourra ouvrir le débat quand même. C'est les auteurs de cet article de Géo. C'est un texte d'Anthony Jean et Anne Chaon. Voilà, et puis bien sûr, ils sont accompagnés des photos d'Anthony Jean. Alors, le préambule, ça nous ouvre sur ce drame qui dépasse l'imagination. L'enfer, c'est qu'ils ont vécu, ces migrants, tous les ans, des milliers d'hommes, femmes, enfants d'Afrique ou d'ailleurs, tentent de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe sur des canaux de fortune. Et j'ai hâte de dire, nos reporters ont vu la réalité à bord des navires de SOS Méditerranée. En 10 ans, l'association a couru quelque 43 400 personnes sur la route la plus meurtrière au monde. Car en mer, la règle est simple. Si quelqu'un est en détresse, on vient à son secours. Et c'est de loi internationale d'ailleurs. Ça devrait être ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements qui le négligent. Hein. Ils sont loin des droits élémentaires là, aux personnes. Donc, c'est le droit international. Si quelqu'un est en détresse, on vient à son secours. C'est une belle théorie dans la réalité. Chaque sauvetage est une opération à haut risque. Ce canot en détresse peut chavirer à tout instant. Et là, il y a une photo qui est bien caractéristique quand même de ce qui se passe à bord de ces embarcations de fortune. Alors, je voudrais parler d'une femme que je connais bien, enfin que j'ai eu à connaître. Elle s'appelle Mado. Elle habite à Jérémie depuis. Elle a traversé la Méditerranée depuis le Liban ou la Turquie, je ne sais plus trop, hein, au départ, sur un canot pneumatique, hein, à Dinki, avec 74 personnes à bord la nuit. Heureusement, il n'y avait pas de tempête parce qu'elle était avec ses deux filles, qui était à l'époque âgée de 11 et 13 ans, je crois. Et ça menaçait de chevrer à tout moment, hein, parce que ça veut dire que de toute façon, c'est des canaux pneumatiques qui sont en surcharge et de loin.
Oui, donc ça, c'est un sujet quand même qui est d'actualité, d'actualité depuis assez longtemps et qui pose des problèmes au niveau national, donc français, et au niveau européen. Hein, déjà de définir quel est le droit de ces migrants, pour quelles raisons ils viennent en Europe et en France, et puis aussi comment les accueillir ou ne pas les accueillir, sur quels motifs. Et ça, c'est un problème de droit français et européen qui est d'actualité parce que c'est un sujet vraiment qui est source de grandes polémiques. C'est vrai que c'est important par rapport au conflit, on le voit actuellement au Moyen-Orient, quel est le droit de ces gens-là de partir et d'être accueillis en France et en Europe. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait traiter une autre fois. On va parler d'autres sujets, là, par contre, qui est un peu différent, mais entre guillemets, pas tant que ça. Parce que là, donc, la Ligue des droits de l'homme va passer un film au Majestic, donc à Remiremont, hein, le samedi 19 donc, septembre à 20h30, qui s'appelle « Fini de rire ». Alors, ce film-là, il traite un petit peu des sujets un peu comme les guignols de l'info traitaient à une époque sur Canal+, et que, ma foi, quand ça a changé de propriétaire, et le nouveau propriétaire s'est permis, c'est son droit, entre guillemets, de supprimer ce genre d'émissions. Donc, c'est des émissions qui des humoristes qui brocardaient l'actualité Alors après, avec quand même des règles de déontologie, malgré tout, mais qui mettaient sous forme d'humour en exergue les sujets de société quotidiens et puis importants. Et ces humoristes, eh bien, ma foi, dans beaucoup de médias maintenant, ils ont été mis à l'écart hein, pour différentes raisons. Et donc, ce film-là retrace un petit peu cet humour politique hein, qui était donc, dans ce film-là mis au garde-à-vous. C'est-à-dire que, ben, ma foi, on a... mis à l'écart hein, ces humoristes parce que ils dérangeaient. Ils dérangeaient déjà des propriétaires de médias, hein, comme Canal+. Ils dérangeaient aussi...
Comme Bolloré, par exemple.
C'est le nouveau propriétaire de Canal+. Hein, et, mais aussi un petit peu à l'extérieur, hein, puisqu'à France Inter, etc., hein, il y a aussi des problèmes de ce genre d'humour qui dérangeait, hein, dérangeait principalement les grands de ce monde, hein, que ce soit politique, économique et autres. Et donc, ma foi, ils ont mis à l'écart ces humoristes hein, pour différentes raisons. Et donc, ils en ont fait un film hein, qui s'appelle « Fini de rire ». Alors, c'est un film qui a été... Là, ils mettent, par exemple, dans ce film-là, « Fini de rire ». Alors, il faut quand même signaler que ce film-là, à Remiremont, hein, au cinéma Majestic, il est à 5 euros, hein, parce que le vendredi, samedi et dimanche, il y a des films qui passent à 5 euros hein, dans ce cinéma-là. Et donc, il rentre. Pourtant, il vient de sortir, hein, ce film-là, 2026. Il vient de sortir, mais bon, il bénéficie de cet avantage de 5 euros sur Remiremont. Et donc, ce film-là a été réalisé par, par ces humoristes-là mis à l'écart.
Guémozo hein. va annoncer. L'émission.
Oui, bien sûr. Donc, ce film-là a été réalisé par ces gens qui ont été mis à l'écart en disant que, en France, rire des puissants, hein, parce que souvent c'était ça, que ce soit les guignols d'info ou autres, hein, est devenu un sport à risque. Hein, en 30 ans, les humoristes les plus libres de la télévision, de la radio, ont été méthodiquement neutralisés, marginalisés, censurés, voire virés. Dans le visuel public, hein, comme dans les médias privés, le même mécanisme se répète. On tolère la satire tant qu'elle ne mord pas. Dès qu'elle touche au pouvoir, on coupe le micro. Des plateaux de Canal+, aux studios de France Inter, en passant par les couloirs de France Télévisions, que ce soit du règne de Nicolas Sarkozy jusqu'à maintenant, hein, ce documentaire retrace la mécanique du mise au silence hein, qui en dit long sur l'état réel de la liberté d'expression dans l'audiovisuel français.
Il y a quand même des journalistes qui se rebellent contre ça quand même.
Oui, alors, donc ces journalistes, et, donc, ils ont fait ce film-là dans cette optique-là. Hein, donc dans ce film, il y a des gens qui faisaient partie de Canal+, dans les guignols de l'info, hein, entre autres, hein, donc, et qui ont participé à ce film, puisqu'ils ont été quand même pas les premiers, mais ils ont fait partie de ce genre de limogeage, hein, de mise à l'écart. Hein. Donc, là, l'enjeu de ce film, d'après une des dames hein, du film, hein, qui a réalisé ce film, hein, et il est d'interroger les limites invisibles de la liberté d'expression dans les médias français. L'autre objectif, c'est de documenter la puissance de l'humour comme arme de subversion politique. Car lorsque l'on rit ensemble, on fait communauté. Et lorsque l'on ridiculise un puissant, on soude cette communauté contre lui. C'est pourquoi nos clowns préférés font tant peur aux politiques. J'espère profondément que ce film permettra au public de se documenter sur les pressions qui s'exercent sur la liberté de rire et qu'il insufflera des raisons de se mobiliser en vue de l'élection à venir. Donc ça, c'est une des personnes, Mathéo Larocque, hein, qui a participé à la réalisation de ce film. Mais dedans, il y a des journalistes, hein, comme Jean-Pierre Canet, etc., Laurent Mauduit, donc tout un tas de journalistes d'investigation qui ont participé, qui sont dans ce film-là, hein, et puis d'autres. Et donc, c'est soutenu, entre autres, ce film-là, par les Ligues des droits de l'homme, mais aussi par l'association ATTAC, l'Observatoire des multinationales, et puis des syndicats de spectacles aussi, syndicats des journalistes, etc. Donc, il y a un certain nombre de partenaires qui ont soutenu à la réalisation de ce film. Donc, voilà l'intérêt de ce film, de passer dans le cadre de la liberté d'expression. Alors, la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, ce n'est pas dénigrer comme ça. Hein, il y a des règles. Hein, la LDH, il tient beaucoup hein, aux règles, aux lois, hein, qui permettent de pouvoir rire, mais pour autant de garder comme une certaine dignité, hein, et des personnes, des institutions. Pour autant, la frontière des fois est fragile. Donc la LDH attache beaucoup d'importance à ces règles, hein, qu'il faut garder, mais tout en préservant la liberté d'expression pour autant. Donc c'est ça un peu tout l'enjeu de ce film, mais aussi de l'idée des droits de l'homme sur ce sujet-là.
Peut-être s'accorder quand même une pause musicale. Ben ça me fait penser, le premier qui dit la vérité. Yo, loup va nous. Vous sélectionnez ce tout à l'heure.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de Gaza ont-ils un avenir? Sous les bombes jour et nuit, les enfants ne dorment plus. La terreur a envahi chaque instant de leur vie. Toi qui les condamnes à mort, comment peux-tu t'endormir? Un soldat, c'est bien plus fort qu'un enfant qui respire.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de Gaza ont-ils un avenir?
Survivants désespérés d'un massacre à bout portant, ils n'ont plus rien à manger que les herbes des champs. Quand les villes bombardées jettent un peuple dans les rues, c'est le rire des enfants qui nous manque le plus.
Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de
dans la guerre et dans le sang, dès le jour du premier cri, dans la haine des deux camps, c'est là qu'ils ont grandi. Ils réclament leurs parents, ils recherchent leurs amis. Rien ne peut ressusciter une enfance assassinée.
Après cette présentation de ce film, hein, Fini de rire, hein, donc qui va passer au cinéma Le Majestic donc le samedi 19 septembre à 20h30, hein, et bien, ma foi, il y a un deuxième sujet qui est important de traiter, intéressant, hein, qui a été traité dans la revue de Droits et Libertés de la Ligue des Droits de l'Homme du mois de juillet de cette année, 2026, donc qui est sur les jeunes et les réseaux sociaux, à propos du projet d'interdiction, hein, des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. Donc c'est un sujet qui est en projet de loi et qui débat, hein, actuellement dans la société. Et donc la Ligue des Droits de l'Homme s'est intéressée à ce sujet au niveau du droit, hein, quelles sont les limites d'une loi par rapport à ces problèmes-là. Alors, je vais commencer par un article, finalement, sur les réseaux sociaux et l'information en général. Donc là, il y a eu un projet de loi et puis une commission qui a été désignée l'année dernière, hein, par le ministre de la Santé sur la désinformation en santé qui met la population en danger. Donc là, ce n'est pas les mineurs pour autant, mais c'est l'ensemble de la population. Mais c'est pour montrer, hein, qu'on peut désinformer facilement, hein, la population mineure, mais aussi adulte, hein, qui pourtant connaît certaines choses. Hein, donc là, cette idée-là, c'est que la guerre contre les fausses informations en santé depuis la crise du Covid, ça a été mis beaucoup en exergue à cette période-là. Donc, il y a eu une commission d'expertise qui a été nommée en 2025 par le ministère de la Santé, par le ministre de la Santé, pour justement traiter ce sujet-là. Donc, dans cette commission-là, il y a eu plusieurs personnes, dont un épidémiologiste et biostatisticien de l'INSERM. Donc, l'INSERM, c'est la recherche médicale publique. Et une autre personne, donc Hervé Maisonneuve, qui est médecin de santé publique. Et un troisième, donc, sur lequel l'article a été fait, Mathieu Molimar, qui est chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Donc, c'est lui qui intervient en citant que cette désinformation en santé peut mettre la population en danger. Alors, il explique un petit peu l'enjeu donc, qui a été fixé par le ministre de la Santé en 2025, par cette commission-là, voir un petit peu ce qu'il en est, faire l'état des lieux, comme quoi on peut facilement divulguer des informations, y compris sur la santé, qui peuvent nuire, puisque lui, il cite que dans la période troublée actuelle, donc l'année dernière, mais bon, actuellement ça n'a pas changé, et ben finalement, ça peut mettre en danger la désinformation ou les informations mensongères, les deux. Ça peut être pour lui presque comme le tabagisme et la conduite en état d'ivresse. Donc c'est assez grave, d'où l'importance de traiter ce sujet. Donc c'est vraiment un sujet qui s'est développé beaucoup dans cette période trouble du Covid, avec des influences qui viennent de partout, mais qui cherchent, surtout étrangères, qui cherchent à fracturer notre vivre ensemble. Parce que quand on met les uns contre les autres sur des informations qui n'ont pas de source vraiment officielle et vérifiée ou scientifique, eh bien, c'est sûr qu'on peut mettre les uns contre les autres comme ça. C'est très dangereux au niveau de la société de faire des clivages. Et c'est vrai que la Ligue des droits de l'homme attache beaucoup d'importance à ça. Donc, en véhiculant des informations débridées qui sont favorisées dans ces situations-là de crise, où les gens ne réagissent pas plus sur l'émotion que sur la vérification scientifique. Et c'est vrai que l'information actuellement n'est pas toujours simple, des fois, à voir. Donc, lui, il dit que la prise de conscience politique aussi a été renforcée par l'arrivée de Trump aux États-Unis, qui a fait de la désinformation une politique d'État.
Et qui aujourd'hui, autres, comme chef d'État, qui nie aujourd'hui encore le problème écologique.
Oui, mais là, même rien pour revenir sur l'aspect santé, Trump, le président Trump, il a nommé comme ministre quand même de la santé quelqu'un comme Robert Kennedy, qui est vraiment anti-vaccin, etc. Donc, vraiment, qui clive officiellement les choses. Et donc, il impose sur des données non scientifiques une politique nationale d'un pays important, qui a des répercussions, y compris sur l'OMS à un niveau international. Donc, on voit tout de suite cette importance-là de la désinformation. C'est assez grave quand même à traiter. Donc, là, le problème, c'est qu'il faut se baser sur... il dit bien que lui, qui s'occupe de pharmacologie, s'il y a un sujet autre, même scientifique, eh bien, ma foi, comme il dit, lui, il n'est pas à même de traiter l'ensemble des sujets scientifiques médicaux. Et donc, il faut faire appel à d'autres, parce qu'il dit que, ma foi, lui, il est expert, certes, mais expert dans son domaine. Mais il n'est pas expert dans tous les domaines scientifiques et médicaux. Donc, il faut faire appel à des gens autres compétents dans le domaine précis. Comme il dit à la fin, pour compléter ces articles, un médecin est comme un artisan boulanger n'est pas un artisan plombier. Donc, comme on dit, il faut faire appel à plusieurs domaines d'experts, et ça, ce n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que les médias, rapidement, peuvent diffuser des informations qui peuvent être non vérifiées. C'était le rôle des journalistes, à une époque, de vérifier les informations. Mais là, maintenant, c'est la rapidité, c'est aussi faire le plus d'audience. Et ça, c'est au détriment un petit peu de la qualité de l'information qui peut circuler. Alors ça, c'est le premier point pour introduire finalement que dans les réseaux sociaux et les jeunes, par rapport à ce projet de loi, il y a quand même une étude qui a été faite, qui a été fournie au niveau du ministère de la République française. Et donc, c'est sur une plateforme « Je protège mon enfant ». qui sert à informer à destination des parents pour lutter contre l'exposition aux mineurs sur les contenus pornographiques qu'il peut y avoir. Et donc là, les réseaux sociaux sont très appropriés pour ça. Alors, dans cette information, donc, qui est de août 2026, donc de maintenant, il y a des études qui ont été faites, par exemple, que 12% des enfants à 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à un contenu pornographique. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait. Et donc, ça, c'est quand même important. Un enfant sur trois. 62% des jeunes ont vu des premières images pornographiques avant d'entrer au lycée, donc avant 15 ans. 62%. Alors ça, c'est des sources en plus qui datent de 2018. Donc ça n'a pas dû diminuer actuellement avec l'explosion, l'utilisation des smartphones. Donc 82% des mineurs ont déjà été exposés à des contenus pornographiques. Et les smartphones, c'est le support le plus utilisé par les jeunes. Ben oui, parce qu'avant, c'était sur ordinateur, même fixe, portable, etc. Mais maintenant, ça s'est généralisé, cette technique, par les smartphones. Les jeunes sont beaucoup avec cet outil-là, beaucoup plus qu'avec un ordinateur fixe. Et donc, c'est le support utilisé par les jeunes pour visionner des vidéos pornographiques. Deux tiers des enfants de moins de 12 ans possèdent un smartphone. Et ça, c'est des études de 2020. Donc, c'est pareil, ça a dû augmenter. Et donc, voilà, à partir de ce contenu, donc le risque quand même par rapport aux parents, c'est quand même pas simple de gérer ça. Donc, c'est bien mis dans cet article. Donc, je protège mon enfant du ministère. Et donc, les enfants vivent largement dans un monde numérique où ils communiquent, jouent, se sociabilisent et apprennent. Ils ont d'ailleurs un accès de plus en plus précoce et généralisé aux différents appareils numériques. Ils sont donc susceptibles de visionner des contenus pornographiques, malgré la vigilance de leurs parents. Ainsi, la cour de récréation, les vestiaires du club de sport, la chambre d'un copain, sont autant de lieux où un enfant peut accéder à ces images. Que ce soit le téléphone d'un camarade de classe, la tablette du copain, fêtant son anniversaire, etc. Le risque d'exposition est bien réel. Donc, il demande aux parents de rester vigilants et d'accompagner son enfant dans ses usages numériques. Et puis, il y a quand même quelque chose de plus pervers, là, par contre. C'est une exposition parfois involontaire à la pornographie. Des sites illégaux de streaming ou de jeux vidéo sont des sources importantes d'exposition à la pornographie. En effet, un enfant regardant un dessin animé ou jouant sur ces sites illégaux est fortement susceptible de voir apparaître une publicité avec ce caractère, ou des bandeaux publicitaires, ou des fenêtres. Donc, le danger est d'autant plus grand que les parents sont persuadés qu'il y a en sécurité. Et puis, les nouvelles pratiques numériques, c'est vrai que ça, c'est important, surtout pour les jeunes. L'utilisation de réseaux sociaux, des applications de messagerie instantanée, des applications de partage de photos et vidéos, favorisent la diffusion de contenus pornographiques entre mineurs. Ces images et vidéos peuvent être issues de relations intimes privées et être diffusées sans le consentement des personnes filmées. Ainsi, dans le cadre de groupes de discussion sur des applications de messagerie, des groupes privés ou de commentaires sur les réseaux sociaux, de communautés sur des applications de partage ou encore de forums dédiés à des jeux vidéo, les enfants sont susceptibles d'être exposés régulièrement à ces contenus pornographiques. Donc, l'installation de contrôle parental sur les différents appareils ne doit donc pas exclure une vigilance des parents sur la pratique numérique des enfants. Donc, tout ça, c'est grave, c'est important à traiter. Et donc, pour en revenir à ce projet de loi qui part d'un bon sentiment, on peut peut-être passer à une pause musicale sur ce sujet difficile.
Ferme la porte. On se verra plus jamais. Les heures passées, tu les emportes. Ne reste que ce lit défait. J'ai replanté des marguerites. dans ce jardin me souvenant que même si le temps s'effrite, faut en garder tout son content. Si au hasard d'une balade je revoyais ton frère minois, c'est peut-être un autre dans l'enfilade que je serais devenu pour toi. Pourtant, on n'oublie pas la belle, les accords parfaits, la chaleur, la tendresse qui rend plus belle. Nous deux, nous étions le bonheur. Rien que pour ces moments, madame, valait la peine d'être née. Ce n'est pas vrai que l'on se donne, on n'en finit pas d'espérer.
Voilà, et voilà, nous reprenons l'antenne.
Et bien après cette chanson de Jules Bocarne, un chanteur peut-être pas très connu, hein. Belge, ben oui, c'est des choses.
Et je découvre aussi
des choses qui arrivent. Donc c'est quelqu'un, un chanteur très engagé sur la voie de la non-violence, hein, et qui a eu des gros problèmes puisque sa femme a été assassinée, hein, et qu'il a malgré tout pardonné à son assassin. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours battu pour contre la violence, hein, contre tout ce qui est pacifique dans la vie. Et donc voilà un petit peu une de ses œuvres, de ce monsieur qui mérite d'être plus connu, Jules Bocarne. Donc, pour en revenir un petit peu au sujet là, qui avait été commencé juste avant cette pause musicale, hein, qui sont par rapport à ce projet de loi sur les jeunes et réseaux sociaux, l'interdiction en débat. Donc là-dessus, la revue de la Ligue des droits de l'homme, hein, donc Droits et Libertés, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site de la Ligue des droits de l'homme, hein, où qui est en ligne sur Internet. Vous voyez comme quoi il y a des bonnes choses sur Internet. Et donc, sur ce site-là, il y a les revues, hein, qui sont trimestrielles, que vous pouvez consulter, hein, et voir après acheter si ça vous tente, mais déjà consulter. Et donc, dans cette revue, il y a ce sujet-là, avec ce projet de loi qui est important, parce qu'on a vu déjà ce que c'était que l'information, par exemple, médicale, aussi l'information des jeunes et la pornographie, hein, qui se développe, enfin, qui est facilitée, disons. Par autrefois, il fallait aller chercher une cassette, c'était compliqué quand même, tout ça, ou aller dans un film qui était pointé, qui était bien classé, hein, donc, alors que maintenant, c'est plus accessible facilement, y compris par les jeunes, hein, puisqu'on a parlé un petit peu avant que beaucoup de jeunes, de mineurs, ont un smartphone, et à partir de cet outil-là qu'ils ont sur eux, eh ben facilement, ils peuvent avoir accès à des choses, hein, donc des choses bien, comme les réseaux sociaux, on a vu ça, mais aussi avec les risques. Hein, donc, on a vu les risques d'information, de désinformation même au niveau santé, avec ce médecin, hein, cette commission qui avait été mise en place par le ministre de la Santé l'année dernière. On a vu les risques, et puis aussi au niveau pornographie. Et donc là, ce projet de loi essaie, hein, donc pour en venir sur cet article-là, M. Macron a dit l'année dernière, hein, donc en 2025, on doit interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Hein, donc il a déclaré en juin 2025, hein, et en disant même on ne peut plus attendre. Donc voilà, c'est à partir de là, hein, qu'il y a eu ce projet de loi qui s'est mis en place, parce que ben, il a dit qu'il fallait réagir. Effectivement, il y a des grands risques, et là, il y a eu ce projet de loi qui a été élaboré. Donc, l'affirmation est ambitieuse, c'est vrai. Alors que malgré l'interdiction d'utiliser toutes ces choses-là, hein, les réseaux sociaux, avant 13 ans, mais 22% des enfants de 11 ans indiquent avoir utilisé pour la première fois les réseaux sociaux avant leur 10e anniversaire, selon l'ARCOM. Alors, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, c'est public. C'est une commission publique, ce qui regroupe ce qu'il y avait autrefois CSA et Adopi au niveau de l'Internet. Donc, cette commission, elle fait entre autres des études pour voir, sur Internet, comment les gens se comportent pour faire un état des lieux et puis faire des propositions derrière, à partir de l'état des lieux. Donc ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques ont migré vers les téléphones, ce qui les rend accessibles à tout moment. C'est ça aussi. Avant, il fallait aller sur un ordinateur fixe, donc c'était compliqué. Maintenant, c'est très pratique et en plus accessible, y compris aux enfants, dont beaucoup en possèdent. Et si, ce qui est en plus embêtant, c'est que ils sont toujours gratuits. Ils sont gratuits, mais les plateformes, c'est tout simplement des entreprises avec financement derrière, une entreprise privée qui doit faire des bénéfices, comme toute entreprise, c'est une obligation légale, et donc elle doit faire des bénéfices. Alors comment est-ce qu'elle le fait alors que c'est gratuit d'utilisation, entre guillemets? Si elle fait des bénéfices, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui les rend intéressantes. Et donc, c'est un modèle économique très rentable, d'après cette étude, basé sur la publicité. Alors, on ne s'en rend pas bien compte, c'est sournois. Et la collecte surtout massive et insidieuse des données personnelles. Et c'est que cette collecte qui sert au profilage, c'est-à-dire donner un profil, définir un petit peu votre identité. Vous aimez quoi, vous n'aimez pas quoi, etc. Vous êtes comment, qu'est-ce que vous appréciez? Et donc, à partir de tout ça, c'est des informations qu'on peut collecter grâce aux moyens de l'informatique, qui sont démesurés. Ce n'est pas juste notre mémoire. Et donc, ça permet de chacun, individuellement, avoir une identité de chaque personne. Et puis ensuite, alors là, par contre, la vendre. C'est ça qui est grave. La vendre, c'est ça l'intérêt de ces sociétés de plateformes. C'est ensuite de vendre toutes ces informations-là pour l'utilisation autre. Donc, ces usages inquiètent les parents, le corps enseignant, le corps médical, et puis aussi défenseurs des droits et libertés. Donc, il y a plusieurs commissions qui s'intéressent et qui s'inquiètent de tout ça. L'ANSES, c'est tout ce qui est santé, l'ARCOM qu'on a parlé tout à l'heure, la CNIL, etc., tout un tas d'organismes qui s'intéressent aux enfants et aux écrans. Alors, les écrans, on pense aux écrans d'ordinateur, mais maintenant c'est plus sur les smartphones, en tout cas pour les jeunes, mais les adultes aussi, où ça a plutôt basculé sur les smartphones. Donc à partir de là, le CREDOC, donc, est un organisme qui fait des sondages pour voir un petit peu le baromètre, un petit peu du numérique. Donc en 2025, 58% des 12-17 ans déclare consulter quotidiennement les réseaux sociaux numériques, et la plupart d'entre eux avec leur smartphone. Et 42%, donc ces jeunes, ils passent entre 2 et 5 heures par jour, mais 9% y passent plus de 5 heures par jour. Alors, il faut voir que si les moins de 12 ans utilisent Internet, les moins de 12 ans, donc ces jeunes, pour regarder la télévision et les tutoriels, ils recherchent vers 13 ans, un processus de socialisation et passe à Snapchat, Instagram, donc Facebook, X, etc. Dans la moindre mesure, parce que c'est quand même pas un moyen pour les très jeunes qu'ils utilisent le plus. Mais par contre, des réseaux comme TikTok, YouTube, WhatsApp, etc. Le principe de TikTok, c'est de faire des sujets très courts sur un domaine et on passe à autre chose. Donc ça correspond bien actuellement, l'actualité actuelle. Et les jeunes aussi adorent ce genre d'information très courte. Ils sont vite lassés par quelque chose de plus long. Donc, ça va bien. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait passer dedans avec une information très courte? C'est ça tout le problème. Et il n'y a pas de vérification pour autant. Et puis, en plus, ces messages-là, par qui ils sont contrôlés? C'est là que le qu'il y aura cette loi qui va essayer de mettre un petit peu
TikTok.
Ça.
C'est le principal opérateur.
Mais c'est chinois, mais bon, c'est parce que
chinois,
c'est parce que c'est chinois, c'est parce que c'est chinois, mais c'est surtout parce que le contrôle de ce qu'il y a dedans, eh bien, ma foi, c'est difficile. Hein, c'est difficile. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'après, on verra que la Ligue des droits de l'homme pose question sur, justement, l'intérêt de cette interdiction. Parce que comment contrôler tout ça? Comment c'est déjà le problème. Donc, on a vu quand même qu'il y a
comment contrer aussi ce qui est fait de nous. De nous donner. Hein.
Ah, bah oui, ça par les données, elles sont vendues. Autrefois, on se rappelle, des boîtes comme la Redoute, etc., avaient un fichier client hein, qu'elles revendaient des fois, hein, et souvent même. Et d'ailleurs, souvent quand il y avait des abonnements ou
même
des choses comme ça.
Le fichier du téléphone était.
Oui, ben bah voilà. Donc c'est vrai que tout ça, mais c'est obsolète maintenant. Hein. C'est va longtemps que c'est dépassé, mais c'est le principe de toutes ces plateformes numériques qui, pour être gratuites et bénéficiaires, bah, trouvent l'argent. Et autrement. Mais on peut peut-être passer à une troisième pause musicale.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Voilà, après cette chanson de Gauvin Serre sur les oubliés. Les oubliés, il ne faut pas oublier que c'est justement tous ces gens-là qui actuellement se sentent un peu exclus. Hein, et oubliés, entre guillemets, de la société et qui sont récupérés, malheureusement, par tout un tas au niveau politique et autres, hein, par des gens qui veulent soi-disant s'occuper d'eux, hein, les prendre en compte et puis malheureusement des fois à leur détriment. Hein, donc c'est important de bien voir ça de cette façon-là, cette récupération souvent de ces gens qui se sentent exclus pour différentes raisons. Hein. Ce ne sont pas des raisons politiques, même comment dire, d'orientation sexuelle et autres. Hein. Donc tout ça, c'est important. Alors pour en venir à ce sujet sur ce projet de loi hein, sur les réseaux sociaux et l'interdiction aux jeunes hein, de moins de 15 ans, donc il faut voir quand même que ce problème-là sur les adolescents, hein, il faut voir que l'adolescence, c'est pas comme les adultes, hein, c'est une période de construction de la personnalité et les réseaux sociaux, hein, puisque c'est quand même ça qui est en cause, hein, ils jouent un rôle important dans cette quête du soi hein, et la place de la société. De chacun dans la société. Ils répondent à des besoins d'interaction sociale, de recherche aussi de sensations fortes et de prise de risque. Mais là aussi, alors les prises de risque, on va voir ça un petit peu après, c'est que par exemple, sur les filles, hein, ça a un rôle même sur la santé mentale, parce que les filles sont plus impactées que les garçons, elles utilisent davantage les réseaux sociaux hein, et sont attentives à leur image. Alors ça, c'est un gros problème. Elles se comparent facilement. Mais donc par exemple par leurs photos hein, qu'elles peuvent mettre sur les réseaux sociaux et ces photos-là alors c'est grave parce que c'est des fois une comparaison avec d'autres filles etc c'est dramatique mais surtout qu'actuellement avec l'IA ben il y a possibilité hein, de déshabiller hein, ce qu'on appelle déshabillage hein, qui est généré par l'intelligence artificielle donc qui facilement peut transformer une personne qui est habillée, une jeune fille qui est habillée, nue. Et ça passe sur les réseaux sociaux. Alors, c'est dramatique, parce que vous vous rendez compte un petit peu le problème de cette fille-là. Alors, ça, donc c'est grave, mais en plus, c'est une victime de pédocriminels, quoi. Donc, voilà un petit peu l'enjeu de tout ça. C'est quand même grave, hein, les risques qu'il peut y avoir de ces réseaux sociaux. Et l'IA, là-dessus, facilite un petit peu eh ben, ce genre de choses, hein, comme ce déshabillage, etc., mais aussi favorise ces plateformes-là parce qu'elles peuvent faire des ciblages, elles peuvent faire des profilages plus rapidement et donc enfermer des jeunes dans une bulle hein, très facilement. Et puis tout ça par les algorithmes qui sont vraiment dopés, comme ils mettent, par l'intelligence artificielle. Donc c'est ça, parce que bon, ma foi, ils voient plus rapidement avec cet outil-là tout ce qui est intéressant pour ces plateformes, mais au détriment des utilisateurs des réseaux sociaux, même s'ils sont au courant des risques éventuellement. Hein, mais c'est difficile, on peut être au courant des risques et pour autant, eh ben, ma foi, tomber dedans, quoi. Et là-dedans, il y a eu un rapport en 2025 de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, qui a été remis à l'Assemblée nationale, hein, ces constats sont accablants. Présence et viralisation de contenus dangereux, racistes, antisémites, propos glorifiant le sexisme et le virilisme. Ces rapports accusent l'entreprise chinoise d'absence de modération, de ciblage algorithmique, mais surtout de favoriser des spirales de contenus néfastes et de précipiter le passage à l'acte. Donc, hein, comme même des automatisations, etc. Donc c'est grave parce qu'il faudrait pouvoir contrôler ces plateformes-là, c'est difficile, et puis après, chaque contenu, et en tout cas, une fois que c'est passé, bon, on peut revenir dessus, mais c'est comme autrefois, les rumeurs, hein, quand on dit « il n'y a pas de fumée sans feu », les rumeurs qu'il y avait autrefois, c'était difficile de dire ah « ben non, non, non ». Mais en tout cas, elle était là, et bien là, c'est instantané et mondial, hein, c'est dans le monde entier. On a beau faire ensuite, il faut déjà le voir, hein, il y a tellement d'informations, et ensuite faire un démenti, c'est quasiment compliqué, quoi. C'est quasiment une méthode impossible. Mais malgré tout, hein, la Ligue des droits de l'homme pose le problème de l'interdiction. Hein. Ce n'est pas simple parce qu'il y a des limites au principe d'interdiction. Hein. Là, on a vu quand même que les réseaux sociaux, Internet, etc., les smartphones, ça peut être utilisé de façon positive hein, pour rechercher de l'information, que ce soit même à l'école, etc. Mais il y a ce côté de risque. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas tomber hein, dans la liberté de chacun quoi, hein. La Ligue des droits de l'homme est très attachée à ce genre de choses. Donc, disons que ce rapport qui a été déposé en novembre 2025, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en janvier 2026, transmis au Sénat, propose une mesure phare, l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Mais le Conseil d'État, hein, donc c'est là-dessus que la Ligue des droits de l'homme s'intéresse, pointe de sérieuses atteintes à la liberté d'expression induites par cette interdiction généralisée. Rappelons, comme le fait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989. On a déjà parlé de cette commission au niveau des Nations Unies sur les droits de l'enfant. On a fait tout un... Il y a eu d'ailleurs une exposition à la médiathèque de Remiremont sur ces droits de l'enfant. Et donc, que celui a un droit de liberté, l'enfant a un droit de liberté d'expression. Et qu'un tel droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de choix de l'enfant. C'est l'article 13 de cette commission des droits de l'enfant de l'ONU, dont la France a ratifié cette convention. Donc les réseaux sociaux, donc ça correspond aussi un lieu d'engagement politique et un espace de contre-pouvoir facilitant le développement de la mobilisation citoyenne et de la démocratie participative. Donc c'est l'enfant, l'adolescent surtout, c'est quelqu'un qui en devenir d'adulte, c'est-à-dire de comprendre un petit peu le monde dans lequel il vit, autour de lui, mais un peu plus loin même, avec toutes les composantes, sociologiques, économiques et autres. Donc, c'est important quand même qu'il ne soit pas exclu de ce moyen-là pour sa construction de personnalité citoyenne. Donc, c'est important. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, c'est priver les mineurs reviendra à les écarter d'une part de la construction de la société, autant qu'à confronter majorité et maturité numérique. Donc, ne pas autoriser à participer au débat public en ligne, n'est-ce pas aussi exclure du monde dans lequel ils vivent? Ah oui, c'est le grand risque, c'est de ne pas les former à devenir citoyens. Et puis, en plus, il y a quelque chose derrière. Par ailleurs, si le risque de désinformation est réel sur les réseaux les plus utilisés, il est décuplé au sein des réseaux moins connus et donc moins régulés. C'est tout le problème, que ce soit au niveau de la France, mais comment faire au niveau européen, encore plus difficile, mais même au niveau national. Vers lequel le jeune public ne manquera pas de se tourner le cas échéant. En toute hypothèse, la faisabilité technique d'une telle mesure apparaît relative à l'heure de la massification de l'usage des réseaux numériques, réseaux privés virtuels, qui permettent aisément de contourner les blocages géographiques des sites Internet. Et c'est vrai qu'il faut faire attention que si on interdit les choses, mais le problème, c'est que le contournement, il y a encore ce matin dans le journal des Vosges, dans Vosges Matin, il y a tout un article sur des hackers qui piratent des sites. Il y a eu le site du Trésor public, là c'est un autre site sur les pompiers, etc. Donc je veux dire qu'il y a toujours moyen de détourner la technique quand on met des interdits. Donc il faut prendre tout ça en compte, comment faire, mais aussi que ça soit réel, et c'est très difficile au niveau de la technologie. Quand c'était un livre, on pouvait l'interdire de publier, ou un journal, c'était plus facile. Il y a tous les moyens techniques, on peut toujours les contourner. D'ailleurs, c'est même un jeu pour des ados de pouvoir justement faire ces choses interdites. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut faire très attention que la loi, elle soit vraiment applicable. Et d'ailleurs, ce n'est pas au niveau français uniquement, le problème est là. Européen, ce n'est pas facile non plus, parce qu'en fin de compte, tous ces moyens d'information, c'est mondial. Internet, par définition, c'est le moyen mondial, et pas uniquement réservé. Justement, ça dépassait les frontières, les langues, etc. Donc, c'est important de bien comprendre ça avant de faire une loi purement française et qui serait obsolète, qui ne tiendra pas compte de ça. Et puis, les jeunes, ils sont friands de tout ça. Donc, c'est ce qu'on disait. Et ils peuvent facilement contourner. Et là, ma foi, comment vérifier finalement, ça sera un peu caduque comme tentative. Donc, c'est là le problème, et que la Ligue des droits de l'homme intervient pour justement mettre en garde contre le fait que ce n'est pas parce qu'on va faire une loi que le problème est réglé. Et non, malheureusement. Un sujet à suivre mais qui est important. Donc, je laisse Michel aborder un autre sujet.
On a encore plus de temps devant nous.
En sachant quand même que vendredi, je voudrais quand même rappeler...
Terminer ce qu'on avait commencé tout à l'heure, c'est-à-dire en sachant bien que quand même, on ne peut pas être indifférent sur ce qui se passe. Hein. Si nous n'avons pas agi, cette femme serait morte. Nous naviguons sur un cimetière marin. Ça, c'est Anthony Jean qui parle justement de cette situation. Il y a en vérité 33 000 morts et disparus avérés depuis 2014. Et encore, bien sûr, on ne connaît pas les chiffres exacts. Hein. Et puis, je voudrais terminer sur un témoignage d'une personne qui a été à bord de l'Aquarius en 2017. Un jeune combien. Et son témoignage. Le fouet, c'est le matin, le midi et le soir. C'est notre pain quotidien. Les Libyens nous battent tout le temps, sans raison. Ils nous mettent en prison, sans motif. Les gardiens de la prison, ils tuent des gens et les jettent dans un trou. Ils ne referment le trou qu'une fois qu'il est rempli de corps. Ils ont amené les femmes, il y avait des filles qui étaient même plus jeunes que moi. Ils les ont violées devant nous et il fallait qu'on regarde. Il y avait leur père ou leur frère, ceux qui voulaient empêcher ça, ont été tués sur place. Voilà, c'est ce témoignage-là, criant de vérité, hein, qui est rapporté dans cet article de Géo.
Géo de septembre.
Il est un peu pour conclure cette émission. Ah oui, ça y est.
De septembre 2020.
Six. Lou est quand même gardien de l'horaire aussi, hein, c'est normal. Voilà.
Et donc, je rappelle qu'on
remercie Lizzie d'avoir assuré la technique aujourd'hui.
Ah, oui, merci. Merci beaucoup.
N'est-ce pas,
hein? Donc, on vous invite à aller voir ce film-là. Hein.
En espérant que de temps en temps, elle n'hésite pas non plus à faire des réactions par rapport aux thèmes qui sont débattus. Quand elle voudra, hein, du moins. Voilà, mais c'est... Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, merci à tous.
Bonne soirée.
Merci à nos auditeurs. Et puis, merci à Michel, bien sûr, à la Ligue des droits de l'homme. Et puis, on donne rendez-vous le mois prochain pour un magazine de La Parole est à vous qui sera consacré toujours à la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Notre partenaire. Voilà.